Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock & Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Toutes les semaines, nous avons rendez-vous pour 30 minutes de partage, de deals d'émotions, d'échanges de tuyaux qui retournent les épidermes et permettent d'élargir les horizons par les temps qui galopent. Avouez que ce n'est pas de refus, mon Dieu, moi je lis. Et donc avec vous je partage et pour y parvenir le plus fort que je peux, je chronique les ouvrages, j'interviewe les auteurs et puis et tout est là, je vous propose une playlist par ouvrage évoqué. Histoire de vous restituer en toute subjectivité archi assumée les émotions qui m'ont parcouru pendant la lecture. Quel titre pour dire quel rythme de celui d'un récit, quel autre titre de musique pour vous dire un personnage, etc. etc. J'imagine que vous avez pigé le truc. Au sommaire de ce numéro, un roman paru en cette rentrée littéraire de janvier. Son titre, Les soirées chez Mathilde, son auteur Dominique Fabre, le tout inscrit au très bon catalogue des éditions de l'Olivier. Et comme j'ai beaucoup de chance, d'ici une poignée de minutes, Dominique Fabre répondra pour vous et moi à toutes mes questions au sujet de son très bon roman. Mais avant toute chose, voici comment moi je me sentais quand je l'ai refermé son roman qui s'intitule Les soirées chez Mathilde.
Be happy.
C'était Disclosure, pour vous restituer d'emblée de jeu, sans autre forme de procès et avant d'aller plus loin, toute la dimension sensuelle qui existe dans le roman de Dominique Fabre, son dernier roman paru aux éditions de l'Olivier et qui s'intitule Les soirées chez Mathilde. Pour rappel, je recevrai ici même dans Rock'n'Page pour une interview Dominique Fabre et ce sera d'ici une poignée de minutes. Pour vous restituer l'auteur, sachez que ce Parisien, ce Suisse Parisien, ce banlieusard, plutôt côté Asnières que côté Versailles, notez bien, écrit depuis 95 et qu'il a une vingtaine de titres parus au compteur. Roman ou poésie d'ailleurs. Notez aussi qu'avant les soirées chez Mathilde, il nous offrait En passant vite fait par la montagne, qui a été édité chez Guérin, qui était une commande il y a deux ans désormais, et que ce titre était plus qu'un titre, puisqu'il était en réalité une aventure à part entière dans la carrière de l'auteur, puisque Dominique Fabre était parti une semaine avec des ados placés sous main de justice en Haute-Savoie. Peut-être que cette mission lui avait été confiée, car il est l'auteur, il est un auteur, on va dire, de banlieue, de territoires urbains qui font de notre société malade une accumulation de ghettos, un auteur du macadam, un petit peu de la mélancolie quand elle est bien dite. Il a aussi écrit beaucoup de romans noirs, des polars, quand elle permet cette écriture-là, quand elle permet via les mots d'être ressentie. L'auteur du ressenti, voilà qui lui va bien, si bien aussi sur ce dernier roman, celui dont nous causons aujourd'hui dans Rock'n'Page, à savoir Les soirées chez Mathilde. Présentation générale faite, je vais me plier à l'exercice du pitch, qui n'est pas chose aisée sur ce roman-là, parce qu'il est un roman portrait, au pluriel, d'âme et d'une époque, parce qu'il est une errance, celle d'un narrateur étudiant qui n'étudie pas vraiment, qui fréquente les troquets entre la porte de Clignancourt et Meudon. Il rencontre l'ingénieur qui lui boit trop, il est clairement alcoolique, qui semble si seul perché sur son savoir, son obsession scientifique, et qui le conduit jusque chez Mathilde, où le narrateur va découvrir les soirées avec eux et leurs amis, des gens plus âgés, différents à d'autres, qui en sont à d'autres moments de leur vie. L'étudiant va vraiment rencontrer ces gens, il va aussi pouvoir comprendre ce qu'a de bon le passage du temps dans la vie des gens, et donc peut-être dans la sienne, même s'il se sent différent au milieu d'eux, même s'il est réellement accueilli, et puis il rencontrera l'amour, et là je m'arrêterai là. Mathilde, elle est malade, on ne sait pas de quoi, mais la maladie est là. L'ingénieur arrête de boire, et tout le roman reposera sur les souvenirs de ce narrateur, bien plus vieux désormais, qui se souvient de ce moment comme d'un carrefour primordial dans sa vie. Le tout farouchement ancré dans les années 80, sur ce territoire-là, là, avec ces gens-là qui constituent la galerie de portraits si réussie du roman de Dominique Fabre. Et moi, cette errance contemplative teintée d'une pointe de nostalgie, cette galerie de portraits si sensuelle, qu'on en viendrait presque à les reconnaître dans la rue, les personnages, je vous la dirais bien comme ça en fait.
Madame rêve d'atomiseur et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel. Au ciel. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin. On est loin. Libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle.
C'était Alain Bashung pour vous restituer toute la dimension années 80, un petit peu piquante, nostalgique aussi, il faut le dire, du dernier roman de Dominique Fabre qui s'intitule Les soirées chez Mathilde et qui est paru en janvier aux éditions de L'Olivier. Bon, et puis il est arrivé le moment de le recevoir, Dominique Fabre, en interview. Dominique Fabre, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock'n Page. Les soirées chez Mathilde arrivent dans votre bibliographie après cette aventure qui a été en passant vite fait par la montagne, qui, je le rappelle, a été écrit après que vous ayez passé une semaine en Haute-Savoie avec des mineurs placés sous main de justice. Vous aviez alors envie de quoi après cette aventure ?
Je suis romancier d'abord, donc... En passant vite fait par la montagne, c'était une commande que j'ai acceptée parce que ça m'intéressait de fréquenter, de me changer un peu. Et puis quand on est écrivain, on passe beaucoup de temps seul, en fait. Et là, c'était intéressant. Je me demandais ce qui se passerait, etc. Donc j'étais assez content de retrouver mon bureau, un petit peu ma solitude d'auteur, quoi. Mm-hmm. Et voilà, donc je me souviens pas exactement, je sais que c'est lié aux attentats, c'est-à-dire que comme tout le monde, j'ai été vraiment affolé des rédictions, quoi, du monde, hein. Et puis je me suis dit, mais le monde est beau, il faut faire quelque chose, et ça m'a donné l'énergie pour écrire ce roman, quoi.
Alors moi j'ai trouvé que c'était un véritable hommage, un petit peu, peut-être un petit peu sépia, mais en tout cas un véritable hommage au temps qui passe et aux gens qui savent en faire quelque chose, en fait. Vous, comment est-ce que vous racontez la petite histoire de ce roman, en fait ?
Ben, la petite histoire de ce roman, c'est vraiment ce que vous avez dit. Pour moi, c'est l'expression du temps. En fait, ce qui est très difficile, c'est d'exprimer le temps. Et j'avais cette idée, je me souviens que... On est comme dans une sorte de vague, chaque génération a une vague, et puis alors ça dépose des choses sur le sable du rivage, et puis alors les choses brillantes parfois perdent leur éclat, et le contraire, c'est-à-dire des choses sans importance, des êtres juste croisés, leur souvenir continue de vous nourrir toute la vie. Et c'était un hommage en effet à un temps disparu, mais qui continue de vivre dans la tête du narrateur, donc... C'est un peu le fonctionnement de la mémoire, c'est-à-dire comment on se nourrit de... Parfois, ça peut être juste 5 minutes hein, de conversation avec quelqu'un et ça va vous habiter toute votre vie. Mmh. Et ça va vous guider et ça va être un moment magnifique de l'existence. Quoi. Mmh.
Paris est, enfin, pas dans son ensemble, mais en tout cas les quartiers dans lesquels vous faites évoluer vos personnages, la ville est un personnage aussi dans ce roman-là, en fait. Et en même temps, c'est un Paris que, si on n'a pas vécu à cette époque-là dans ces quartiers-là, qu'on ne peut plus connaître, en fait. Alors ma question, elle est peut-être un peu facile, mais est-ce que c'est un Paris que vous préfériez ?
Alors en fait, c'est le même Paris, hein. c'est le Paris disons le Paris de la périphérie, hein, ou qui bien sûr a changé, ça bobouille, ça gentrifie à mort de partout, sauf dans certains endroits. Mais c'est pas tant le Paris que je peux regretter, parce qu'il n'y a pas lieu de regretter une ville qui n'existe plus, mais c'est un territoire, si vous voulez, pour moi, pour l'écrivain, c'est un territoire d'histoire, quoi. C'est une façon d'être. Les lieux sont très importants dans mes histoires, et c'est vrai que probablement certaines images, pardon, certaines images que j'ai gardées, par exemple la grande maison où ça se passe, elle n'existe pas, mais il y a pas mal de gens qui vont dire « Ah, mais je la connais, c'était le tel machin ». Et c'est assez amusant de voir comment des êtres et des choses de papier, finalement, viennent s'incruster dans la réalité, dans les bâtiments qu'on peut voir encore aujourd'hui. Mmh. Et vous savez, il y a la phrase de Baudelaire que j'adore, « Le vieux Paris n'est plus ». Et en fait, chaque génération va pouvoir la répéter. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça n'en finira jamais d'avoir un vieux Paris, un nouveau Paris, ou un vieux Montpellier, un nouveau Montpellier. Tout à fait. Sauf qu'avec Montpellier, c'est encore...
Tout à fait.
C'est nettement nouveau, quoi. Voilà.
Alors, pourquoi... Alors, donc, on va resituer un petit peu, mais il y a ce narrateur qui est étudiant au moment où se passent les choses. En fait, il est étudiant, mais il n'étudie plus vraiment, et il rencontre comme ça... Il se met à rencontrer un premier personnage qui est l'ingénieur dans un troquet, et qu'il, ce même ingénieur va l'amener à rencontrer tout un tas de gens qui viennent pas du même univers que lui, qui ont pas le même âge que lui, qui en sont à d'autres étapes de leur vie. Et comme vous l'avez dit en tout début de notre entretien, effectivement, il va se passer des choses qui vont changer sa vie avec ces gens-là, en fait. Mais alors, vous avez choisi de laisser des personnages sans prénom. Pourquoi l'ingénieur, pourquoi l'égyptien, et puis pourquoi Mathilde, en fait? Qu'est-ce que ça signifiait, ça?
Alors, je ne sais pas ce que ça signifie dans ma tête, c'est-à-dire pour l'ingénieur et l'égyptien, c'est de les nommer comme ça, les identifie tellement, c'est-à-dire l'ingénieur est tellement ce type qui a une forte, qui est alcoolique finalement, mais qui est surtout un ingénieur de haut niveau qui est obsédé par l'énergie nucléaire, et puis l'égyptien parce que c'est n'importe quel, je veux dire, type comme ça, qui n'a pas de papier, qui vient d'ailleurs, qui travaille quand il peut, qui essaie de s'en sortir, qui ramène une histoire, l'histoire d'où il vient, etc., qui est à peu près inaudible pour les gens, sauf à être très attentif, etc. Et donc, c'était presque, je leur donne un prénom, mais l'Égyptien dans le livre s'appelle Lamem Sidemed, et l'ingénieur, je crois que je donne une fois un prénom, mais c'est pas très grave qu'ils en aient un ou pas, c'est juste plutôt ce type de personnage, quoi, c'est, voilà. Et ce qui m'a intéressé aussi dans le personnage de l'Égyptien, c'est parce que on est dans une époque où beaucoup d'écrivains essayent de coller à l'actualité, de se faire des porte-voix. Donc en ce moment, par exemple, vous avez ce qu'on appelait avant les boat people, bon, je sais plus comment on dit maintenant, qui meurent en Méditerranée, enfin qui fuient des guerres monstrueuses, etc. Mais c'est quelque chose qui est, malheureusement, j'aurais tendance à dire, qui est plus ou moins permanent depuis tellement longtemps. Mmh. Et donc moi, c'était l'Égyptien. Et puis en plus, c'est un hommage la plus biographique à un type que j'ai rencontré quand j'étais jeune et qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai mesuré en le voyant vivre son courage et la folie du monde. Enfin, c'est un petit peu idiot, mais voilà, c'est une sorte d'initiation. D'initiation, c'est-à-dire de rencontrer un type plus âgé et comment vous sentez, ce qu'il est devenu, à quoi il est confronté, etc. Et puis l'ingénieur, je ne suis pas sûr que je l'aime tellement comme personnage, alors je n'avais pas envie de m'étendre sur son pédigré. Il ne
fallait pas s'attacher.
Voilà, voilà, alors, c'est ça.
Il y a une dimension aussi très politique dans votre roman et que moi j'ai trouvé alors fabuleuse. Comme si vous vous attachiez à montrer que... la lutte des classes n'a pas. Il serait pas de bon ton de toujours la laisser dans une lecture très manichéenne, en fait. Enfin, ce jeune homme est au milieu de gens qui sont plus fortunés que lui. Il est au milieu de gens qui sont plus âgés que lui. Et pour autant, ça ne pose pas de problème, en fait.
Oui, c'est-à-dire il est accueilli par eux. Mais il est accueilli, il découvre plein de choses avec eux. Il l'aide énormément, quelque part. Il l'aide à vivre, à se supporter. Mais en même temps, quelque chose le retient de faire le grand saut et d'oublier qui il est, d'où il vient et de totalement s'assimiler. C'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Non pas qu'il se sente rejeté, non pas qu'il soit rejeté de manière concrète, réelle, mais c'est parce que quelque part, il a une sorte de... Il se sent rejeté, il sent que le monde... Ce monde-là n'est pas le sien, et c'est peut-être d'une façon définitive. Alors est-ce que c'est parce qu'il est né comme ça que c'est son caractère, ou est-ce que parce que ce sont des raisons plus profondes qui nous poussent à agir comme ça. Je suis juste romancier, je suis pas,
bien sûr. Voyez,
je ne saurais le dire, mais il fait l'expérience de la différence. Il la vit, il est très bien accueilli, c'est pas des gens méchants, bien au contraire, et néanmoins il sent quelque chose, il y a une sorte de frontière invisible, vous savez, la thématique du plafond de verre qui est dans les années 60-70, c'était surtout à propos des femmes, je crois, dans les milieux professionnels. Mais je crois que le plafond de verre, il y en a beaucoup. Il y a même des murs en verre. Il y a des il y a beaucoup de... On ne parle pas de tout ça.
Et c'est voilà. Vrai.
Alors... Et ça m'intéressait aussi de faire rentrer ça dans un livre, parce que je trouve que c'est assez curieusement inexistant aujourd'hui, alors que ça me paraît tellement... c'est tellement visible que voilà quoi.
En tout cas, merci infiniment pour ce roman qui est vraiment un roman très sensuel, en fait. Enfin, dans le sens où, alors il y a cette question de l'érotisme fou, parce que non dit, entre l'Égyptien et le jeune étudiant, mais il y a aussi, et bien au-delà, en fait, le fait qu'on peut ressentir les choses, en fait, dans ce moment d'errance qu'on suit avec un plaisir fou, en fait. Vous ne coupez pas à la question Rock'n'Page, Dominique Fabre. Quel titre de musique avez-vous choisi pour évoquer les soirées chez Mathilde, sans en parler ?
Eh bien, en fait, je pense à... Il y a une chanson qui s'appelle Musical de Dominique A, que je trouve vraiment, vraiment, qui colle vraiment au sujet. Et puis, mais je pense aussi à Back to Black de Amy Winehouse, parce que je trouve que c'est le titre qui est génial, la chanson est géniale aussi, et puis ça colle bien.
Ça colle parfaitement, le coup de rétroviseur. Voilà. Merci Dominique Fabre.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'était Amy Winehouse, choisie par Dominique Fabre pour évoquer Les soirées chez Mathilde, parues en cette rentrée de janvier aux éditions de l'Olivier. Merci à Dominique Fabre qui vient de se plier à l'exercice de l'interview pour Rock & Page. Si vous avez envie de rencontrer ces personnages, celui de son roman offert par Dominique Fabre dans leur générosité, si vous avez envie de vivre cet hommage très sensuel qu'il rend au temps qui passe et au fait que c'est une belle et grande chose, cette affaire, que nous avons tous et toutes à y gagner, d'en prendre conscience et à ne pas le laisser filer ce temps-là. Si vous avez envie d'un voyage dans le temps, dans le Paris des années 80, alors vraiment n'hésitez plus et procurez-vous Les soirées chez Mathilde, vous passerez un sacré chouette moment de lecture de celles qui restent, de celles qui marquent, de celles qu'on garde au fond comme une photo à laquelle on tient si fort. Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno de Divergence FM qui a réalisé cette émission côté technique. Je vous laisse en compagnie de Benjamin Clémentine qui pour moi dit encore très très bien cette force, cette sensualité, cette douceur qui se dégage des soirées chez Mathilde, parues aux éditions de l'Olivier. Prenez bien soin de vous, à tout bientôt pour un nouveau numéro. If I held my breath on you, I would die a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. Now promises broken, nemesis our token. You turn around, march on to your new home. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. These days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate, faith. Whatever you've chosen to believe in, darling,